Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast. Que vous soyez du milieu médical ou non, je vous invite à rester à l'écoute de ces témoignages de patients et de soignants qui enrichissent jour après jour ma pratique. Je m'appelle Aurélie, infirmière depuis 2015. Je travaille à l'hôpital depuis toujours, exclusivement dans le domaine de la cardiologie. L'idée de ce podcast est née d'une envie de faire découvrir au grand public la réalité du métier, le côté agréable et humain auprès des malades et de ses collègues, et au contraire, le manque de moyens et de personnel d'autant plus évident ces derniers mois. De plus, il me paraissait aussi important d'inclure des témoignages de patients afin qu'ils nous fassent part de leur parcours de vie, des bons et des mauvais moments. Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui dans le podcast en compagnie de Nicolas. Ce qui est très intéressant dans le milieu du soin, c'est que l'on peut évoluer souvent en effectuant des métiers qui sont totalement différents, alors qu'on reste toujours dans le même domaine. C'est ce que va nous montrer Nicolas dans le podcast du mois.
Bonjour Nicolas et merci d'avoir accepté l'invitation sur le podcast. Pour permettre à tout le monde de mieux te connaître, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ?
Je m'appelle Nicolas et je suis cadre supérieur, alors ce qu'on appelle junior. J'ai pas encore passé le concours sur titre dans un CHU. Je suis rentré à l'hôpital il y a. J'ai découvert que ça faisait 22 ans où je faisais des remplacements d'été, petit boulot comme brancardier dans les blocs opératoires. J'ai fait ça 2 ans de suite. Après, je suis parti faire 2 ans de kiné en Belgique où j'ai arrêté les études parce que, alors, pas la profession de kiné, mais le fonctionnement des études en Belgique me convenait pas. Donc, je suis revenu en France. En France, je me suis dit, il va bien falloir que je travaille. Donc, j'ai repostulé à l'hôpital comme brancardier. Cette fois-ci, sur un contrat vraiment pérenne. J'ai été embauché. Pendant ce temps, j'ai préparé les concours infirmiers. Donc, au bout d'un an, j'ai présenté les concours infirmiers. J'ai donc réussi les concours infirmiers. Je suis parti 3 ans, à l'époque c'était 3 ans et demi, donc 3 ans et demi en formation. Et ça m'a permis d'être financé par mon établissement pendant ces 3 ans et demi d'études que j'ai fait en promotion professionnelle. À la sortie de mon diplôme d'infirmier, donc à l'époque c'est un diplôme où il y avait encore l'écrit, où il y avait la MSP.
MSP, mise en situation professionnelle. Elles sont présentes dans le cursus des infirmiers jusqu'en 2009, date de la réforme de la formation. Le principe, les étudiants en formation infirmiers réalisent une démarche de soins auprès d'un groupe de patients et un soin auprès d'un patient faisant partie de ce groupe.
Il y avait plus d'un mois et demi entre la fin de la formation et vraiment les résultats. Donc j'ai intégré le CHU en tant qu'aide-soignant. Une fois le diplôme obtenu, j'ai commencé comme infirmier, où j'ai travaillé en gériatrie pendant une dizaine d'années. Donc j'ai aussi pu faire un diplôme universitaire de gériatrie pendant ces 10 ans.
D'accord.
Au bout des 10 ans, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Je change de service, je fais autre chose. Donc à une époque, j'avais pensé faire IAD, donc j'avais présenté les concours IAD.
IAD, infirmier anesthésiste diplômé d'État.
La vie fait que mariage, enfant, tout ça, donc j'avais laissé un peu IAD de côté. Et c'est là où je me suis dit, pourquoi pas voir un petit peu le travail du cadre. Donc à l'époque, j'ai rencontré le directeur des soins de l'époque, qui m'a dit, on a des postes éventuellement de faisant fonction de cadre, est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser ? Donc j'ai dit oui. Et donc, j'ai commencé en tant que cadre junior, puisque les faisants fonction sur l'établissement, ça s'appelle junior. Donc, cadre junior dans le service des patho-gastro. Au bout d'un an, ma CADSUP m'a dit, j'aurais peut-être besoin sur la chirurgie urologique. J'ai dit, pourquoi pas. Donc, je suis parti en chirurgie urologique où j'ai fait aussi un an de cadre junior. Ça m'a permis de préparer les concours. J'ai passé les concours de l'école des cadres. Je suis parti un an en formation à l'école des cadres. Et à la sortie de l'école des cadres, eh ben, il y avait un poste disponible en hépatogastro. Donc, je suis retourné en hépatogastro.
Oui, c'est ça, tu es retourné dans ton service.
Voilà. Alors, je n'avais pas tout à fait les mêmes missions parce que sur l'hépatogastro, il y avait 3 cadres. D'accord. Donc, je n'avais pas repris le poste que j'avais en tant que cadre junior. Mais je suis revenu donc en hépatogastro. Et au bout de 3 ans, on m'a dit « Ah, bah, il y a un poste de cadre supérieur qui se libère. » Voilà, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser ? Donc, dans un coin de ma tête, j'avais bien ce projet-là, puisque j'avais fait une demande pour un master. Donc, on m'a dit, bah, si tu as un projet master, tu dois bien avoir un projet cadre supérieur. On a un poste qui se libère. Voilà, j'ai candidaté, hein, on était plusieurs candidats, et donc j'ai été retenu pour être cadre supérieur, donc junior pour l'instant. Et ça fait 2 ans que je suis sur un poste de cadre sup junior. Et officiellement, je passe le concours sur titre dans quelques jours. Donc logiquement, je serai nommé cadre supérieur d'ici quelques jours,
semaine prochaine. D'accord. Ah bah dis donc.
Voilà.
Bah, c'est bien,
20
oui.
ans de parcours à l'hôpital.
À l'hôpital. Oui, toujours à l'hôpital.
Toujours à l'hôpital.
Quelles sont les missions du cadre
du cadre de santé dans une unité ?
Ouais, c'est ça.
Alors, je dirais il y a plusieurs missions pour le cadre dans une unité. Il va y avoir tout ce qui est la gestion du flux patient dans l'unité. C'est les entrées, les sorties, ça c'est le lien avec les médecins, la collaboration. J'allais dire qui se fait au jour le jour. Il y a ce contact avec aussi les patients, organiser la sortie. Il y a un rôle, purement de planning en fait, c'est-à-dire la gestion d'équipe pour que le planning tourne. Dans le cadre de la continuité des soins, il faut qu'il y ait le bon nombre de personnes au bon moment, au bon horaire et au bon endroit. Il y a toute une partie un petit peu en lien avec le planning, mais sur l'accompagnement des infirmiers, des aides-soignants. Alors quand je dis accompagnement, c'est... Il y a tout ce qui est informel, mais il y a les rencontres formalisées tous les ans, l'accompagnement sur des formations, l'accompagnement sur des projets professionnels, parce qu'il y en a qui veulent se spécialiser, changement de service, organiser des journées d'observation. Voilà. Après, moi, je dirais que, en tout cas, dans une discipline comme l'hépatogastro, il va avoir un rôle aussi... avec tout ce qui peut entourer la prise en charge du patient, quand même l'industrie pharmaceutique est assez présente, donc il y a tous ces rôles en collaboration. Participer à des congrès, participer à des formations. Tout ça, moi, ça m'a permis de me former en éducation thérapeutique, de pouvoir monter un projet d'éducation thérapeutique en hépatogastro, de le faire valider, de le mettre en place, et en plus de pouvoir animer des séances avec les patients. Et puis on intervient surtout dans le projet lui-même, c'est-à-dire l'écriture du projet, la validation à l'ARS, le déposer, et puis tout ce qui est organisationnel, contacter les patients, fixer les dates des ateliers, enfin vraiment du très pratico-pratique, hein, fixer les dates des ateliers, retenir une salle, enfin. Donc je dirais que vraiment, porter des projets d'équipe, des projets sur... des réorganisations, réfléchir aux organisations. Moi, j'ai complètement bouleversé un peu l'organisation de l'HDJ des pathogastro. Enfin, des nouvelles techniques, des nouvelles accompagner les équipes dans la formation parce qu'il y a des nouvelles thérapeutiques, des nouvelles prises en charge. C'est un peu ce lien de coordonner un peu les différents acteurs entre les gens qui peuvent être responsables de la formation, les équipes, organiser. J'allais dire, c'est un peu le centre de tout, c'est le lien aussi avec le médical, c'est le lien avec peut-être tous les autres intervenants de l'équipe, c'est le lien qu'on peut décharger aux soignants avec les patients, parce que vous demandez à un soignant de commander une ambulance à 1h de l'après-midi, ça peut lui prendre 1 heure.
Je sais ce que c'est.
Voilà, donc c'est un peu le décharger de ça. On avait réfléchi à des infirmières justement de parcours pour qu'elles puissent détacher les soignants de tout ce qui est administratif, commander l'ambulance, appeler la famille en disant ben voilà, votre papa de 90 ans, l'ambulance vient le chercher, est-ce qu'il a bien les clés de chez lui ? Tout ce temps un peu administratif qu'on demande de plus en plus aux soignants, et en fait le soignant il est là pour être au lit du patient et s'occuper du patient. Ça c'est de l'administratif qui peut être délégué à d'autres personnes, et voilà, c'est tout ce rôle-là aussi.
D'accord. Et du coup, ben, on peut faire une différence entre cadre de santé et cadre sup ?
Alors la différence, quand on est cadre de santé, on a une unité. Moi là actuellement j'en ai 11.
D'accord.
Donc, c'est super bien.
Ah oui.
Alors après, j'interviens pas dans tout ce qui est planning, les agents, gestion de l'absentéisme, organisation de tout ça, j'interviens pas. Moi, je suis un peu, j'allais dire, le facilitateur, c'est-à-dire que le cadre, il me dit, bah voilà, moi j'aimerais bien qu'on réfléchisse sur un projet. Et ben, on échange, moi je dis ce que j'en pense, ma façon de voir les choses. Et je l'accompagne un peu dans que ça soit, enfin, la formalisation de son projet, aller à la rencontre des équipes. J'ai un rôle aussi, alors très un peu plus administratif, hein, entre guillemets. On me dit que pour faire tourner mon pôle, j'ai tant d'infirmières, tant de choses comme ça. À moi de les répartir, de m'occuper des recrutements, de faire que les cadres puissent avoir les agents pour faire tourner leur planning. Après, on a aussi un rôle de par délégation de la direction générale. Moi, on me confie des budgets pour acheter du matériel, on me confie des budgets pour de la formation, on me confie des budgets pour des actions de qualité de vie au travail. Voilà, à moi de faire le recensement de nos besoins, de faire des devis si besoin, de chiffrer et de dépenser mon enveloppe au mieux possible. Après, c'est l'accompagnement des cadres, des situations complexes. Ben voilà, j'ai un problème avec un médecin, avec une infirmière. Comment je peux prendre tourner les choses ? Comment je peux les rencontrer ? Comment voilà, c'est vraiment c'est de l'accompagnement. Et en fait, c'est aussi le rôle entre la direction des soins et le terrain. Donc, nous, on a des réunions de cadres sup où vraiment on est avec la direction des soins. C'est le passage d'informations.
D'accord. Oui, parce qu'on est d'accord, l'hôpital, ça se découpe en pôles.
Oui.
Donc, voilà, toi, tu es référent d'un pôle qui, après, les cadres, elles, sont référentes de leurs unités.
Si on fait un peu la pyramide, il y a les infirmières, les aides-soignantes, les ASH, les kinés, les tout ça.
ASH, agents de service hospitalier, ce sont les petites mains de l'hôpital en termes de ménage. Et j'en profite pour faire un petit coucou à mes anciennes et actuelles collègues ASH qui font un super travail et elles se reconnaîtront dans le podcast.
Eux, ils dépendent d'un cadre. Ce cadre, il dépend d'un cadre sup. Et ce cadre sup, il dépend d'une coordonnatrice générale des soins. Donc en fait, le cadre, lui, va avoir la gestion des agents, infirmiers et soignants. Moi, en tant que cadre sup, bon, j'ai la gestion de tout le monde, mais actuellement de 11 cadres.
Ouais.
Et puis, la directrice des soins, on est 22 cadres sup sur l'établissement, pyramidal. À chaque fois, on monte à l'échelon.
Ouais. Et donc, du coup, à chaque fois, tu as commencé en tant que faisant fonction, en tout cas de junior.
Oui.
Et c'est pas difficile de ne pas avoir de formation, ou est-ce que tu as été un peu accompagné ?
Alors, il faut être accompagné. Ouais. Alors, accompagné, moi j'ai eu la chance de débuter dans une unité où il y avait 3 cadres, donc avec 2 autres cadres qui eux étaient formés. Donc, ça permet un peu d'être conseillé, aiguillé. Alors j'ai eu la chance, j'ai fait 2 postes différents en tant que cadre de faisant fonction, parce que le premier poste, j'avais pas réellement de gestion d'équipe. En fait, sur les patho-gastro, les équipes étaient mutualisées, il y avait une cadre qui s'occupait que de, entre guillemets, faire les plannings et affecter les agents. Donc moi, j'étais responsable de mon hôpital de jour et je savais qu'on m'affectait des agents. J'avais pas le problème de me dire le planning tourne pas, c'était pas moi, je savais que j'allais avoir du monde. Et après, ma cadre sup de l'époque m'a dit, quand même, si tu veux être cadre, il va falloir que tu te confrontes un peu au planning, à l'accompagnement des personnes. Et c'est pour ça que je suis allé en urologie, parce que là, pour le coup, j'avais vraiment l'équipe d'infirmiers, l'équipe d'aides-soignants, l'équipe d'ASH, la gestion des patients.
D'accord.
On va dire que le premier poste était un peu plus sur de la coordination, des choses comme ça, même si c'était un poste de cadre. Et le deuxième était vraiment un vrai poste de cadre. Et du coup, ça m'a permis, cette première année quand même, de faire un peu mes armes. Il faut s'approprier un peu le guide de la réglementation. Il y a plein un peu de choses un peu, on va dire, légales qu'il faut connaître. Et alors, c'était, à l'époque, ce n'était pas très habituel d'avoir des faisants fonction vraiment sur une unité, j'allais dire tout seul sur une unité. Ce qui se faisait beaucoup, c'est des services où il y a deux cadres. Par exemple, les réanimations, il y avait deux cadres. On mettait un cadre formé et un faisant fonction qui apprenait au contact du cadre. Donc, oui. Moi, à l'époque, j'étais un petit peu le seul à être le cadre junior sur une unité à part entière, complète, et un peu livré à lui-même. Alors après, je dis livré à lui-même, c'est faux, parce qu'on a l'accompagnement de notre cadre supérieur, qui, quand on est junior, il consacre beaucoup plus de temps aux juniors qu'aux autres cadres. Et puis, le regroupement par pôle fait aussi qu'on travaille dans un collectif cadre, puisque, et là, on peut avoir le soutien et des conseils des cadres du pôle.
D'accord. Et tout à l'heure, tu parlais que tu faisais un master. C'est en lien, oui, du coup, avec...
Alors, quand on fait l'école des cadres, on fait un master en même temps. Moi, là où j'ai fait mon école des cadres, en fait, on était obligés. Alors, toutes les écoles des cadres n'obligent pas à faire un master. Il y a des écoles qui laissent le choix. Nous, on n'avait pas le choix. On devait faire école des cadres et en même temps le master 1. Et donc, là, je fais un master parce que l'école des cadres fait le master 1, mais je voulais finir ce master, donc je fais le master 2. Vraiment pour avoir le master au complet. Et en plus, alors c'est pas dans les textes, mais nous, l'établissement souhaite que les cadres supérieurs aient un master 2.
C'est une volonté, de l'établissement.
C'est une volonté de l'établissement. Si on lit les textes pour passer le concours sur titre pour être cadre sup, il n'y a pas besoin d'avoir le master 2. Bon, il se trouve que nous, dans l'établissement, la direction s'est positionnée en disant nous, on veut que nos cadres sup aient un master 2. Alors, il n'y a pas de master 2, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, il faut un master 2. Et on peut choisir management, de la socio, enfin, peu importe. Voilà.
Et toi, tu es parti sur...
Alors, moi, j'ai fait celui de Sciences Po et qui est les politiques publiques de santé. C'est celui qui était proposé en première année à l'école des cadres. Rien ne m'empêchait de le finir, c'est-à-dire que j'aurais pu faire le Master 1 politique publique de santé à Sciences Po et me dire en Master 2, je fais du management. Voilà, moi j'ai décidé de continuer parce que pour moi c'était celui couvré qui faisait du management et de la gestion de projet et du droit et de la finance. Et voilà, c'est celui qui était le plus large en termes d'enseignement.
Et donc de tout ça, on voit que c'est plutôt de l'accompagnement et de la gestion. Et tout ce qui est soins infirmiers, genre de choses, c'est pas quelque chose qui manque? Ou en tout cas, comment tu perçois?
Alors, les soins, je pense que quand on passe cadre junior, au début, ça manque un peu. On a envie de... la première année où j'étais à l'HDJ, j'entends l'infirmière, j'ai pas réussi à poser le caté, j'essaye. Les infirmières, quand j'étais en neuro, qui étaient un peu en retard, je vais faire les prises de sang de 14 heures. Voilà. On a encore toujours un petit peu envie. Après, je pense que... c'est des mots, mais on dit qu'on fait le deuil des soins. Et en fait, on s'aperçoit qu'on est... On est tellement occupé qu'en fait, on n'a plus le temps de penser vraiment aux soins. Je pense que quand on s'engage dans un parcours de cadre... Beaucoup de gens ont tendance à dire « Ah bah t'as évolué dans ta profession, parce que j'étais infirmier, je suis passé cadre. » Pour moi, je ne dis pas que j'ai évolué, je dis que je fais autre chose en fait. Parce que un cadre, il s'occupe de gérer des infirmiers. Mais le métier de cadre, ce n'est pas un prolongement du métier d'infirmier. On est entre guillemets le supérieur hiérarchique de l'infirmier. On évolue parce qu'on devient supérieur sur le papier, mais en fait, on fait autre chose. Une aide-soignante qui devient infirmière, elle a évolué, elle faisait des soins, elle a appris d'autres techniques de soins, elle fait toujours des soins. Maintenant, il y a les IPA, les infirmières en pratique avancée.
En ce qui concerne les infirmiers en pratique avancée, je ne vous donne pas plus de détails pour le moment, car le podcast du mois prochain est réservé à ce nouveau master.
Elle était infirmière, elle a appris d'autres compétences, elle reste à faire du soin en contact avec les patients. Elle a appris d'autres compétences. Alors effectivement, un cadre, il a appris d'autres compétences, mais qui ne sont pas du soin. Alors on a une vision. Hein. Moi, je supervise le service de gériatrie. J'étais infirmier 10 ans en gériatrie. Quand on me parle de soins en gériatrie, j'imagine bien ce que c'est, je comprends bien ce que c'est. J'ai vraiment une idée des soins qu'on y fait. En médecine interne, on parle de lourdeur des patients, d'indice de sévérité, tout ça je le comprends parce que j'ai pratiqué avant, donc ça me sert d'avoir cette connaissance-là. Mais après, effectivement, je ne fais plus du tout de soins. Donc est-ce que j'ai évolué dans ma profession d'infirmier? Je ne sais pas, je fais autre chose.
Ouais.
Il y a tellement de possibilités de voir la profession d'infirmier sous différents angles. Il y a l'angle hospitalier, mais il peut y avoir des cliniques, il peut y avoir... Hein, au sein de tout ça, il y a tellement de spécialités que je ne sais pas si un jour quelqu'un pourra avoir fait le tour de toutes les spécialités ou alors il faut qu'il change souvent. Peut se spécialiser pour le coup, bloc opératoire, anesthésie, infirmière scolaire. Maintenant, il y a les IPA avec plusieurs parcours vraiment identifiés qui peuvent encore donner une autre ouverture. On peut même devenir cadre, c'est pas grave. Mais j'allais dire, il y a une infinie possibilité que ça soit dans les spécialités vraiment infirmiers que dans ce qu'on veut faire après, de changer d'orientation, de...
Dans le management, est-ce que tu peux encore évoluer
ou... Faire du management ailleurs et autrement. C'est-à-dire que moi, demain, si je veux aller, on a des propositions en tant qu'aide sup. Être responsable d'équipe de prestataires de soins à domicile.
D'accord.
Voilà,
okay.
Par exemple, je peux devenir chef de l'agence de tel prestataire ou des choses comme ça. Après, je pense que il y a toute l'industrie pharmaceutique et les représentants médicaux, pas sur la partie médicale, mais de plus en plus, les laboratoires ont des branches qui aident justement les secteurs hospitaliers à travailler sur du projet ou des choses comme ça. Donc ça, je resterai un peu dans mon domaine de manager cadre supérieur. Et puis après, si un jour le cœur m'en dit, pas pour l'instant du tout, je peux aller faire, il y a une école en France qui s'appelle l'école de Rennes, c'est l'EHESP, et ça forme les directeurs des soins. Et en termes de hiérarchie, on va dire dans la profession paramédicale, le directeur des soins, c'est l'échelon le plus haut. Enfin, il y a coordonnateur général des soins, c'est l'échelon le plus haut qu'on peut atteindre dans une lignée hiérarchique. Voilà, si vraiment je veux encore prendre du grade, il me reste
encore un échelon
éventuellement.
D'accord.
Pour ça, il faut que j'aille un an à Rennes pour suivre une formation, puisqu'il y a une école en France. C'est la même école qui... Enfin, après, il y a des branches différentes, mais c'est la même école qui va former les directeurs d'hôpitaux. Enfin, c'est la même école qui forme les directeurs des soins, les directeurs d'hôpitaux, et voilà.
D'accord.
Tout ce qui est directeur délégué dans les pôles, ils ont été formés à cette école-là.
Ok.
Entre autres, des responsables comme ça.
D'accord. Merci pour les réponses.
De rien, avec grand plaisir.
Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette interview. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder une jolie note sur votre plateforme d'écoute et à y laisser un commentaire. Et nous nous retrouvons très vite pour un nouvel invité. Belle journée.